autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation pour nous demander comment repenser les rapports entre l'humain et la nature. Le moins qu'on puisse dire est qu'il y a urgence, changement climatique, crise environnementale, érosion de la biodiversité, épuisement des ressources, mais aussi crise économique, recrudescence des inégalités, crise du politique et plus largement crise de société. Tous les voyants sont au rouge et pourtant rien ne bouge. Chacun campe sur ses positions, mobilisation scientifique et citoyenne contre déni des décideurs ou des politiques. Comment sortir de cette impasse? Comment faire pour s'entendre? Quelles pistes de réflexion et de confrontation possibles autour de ces enjeux essentiels? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités, le biologiste Pierre-Henri Gouillon du Muséum National d'Histoire Naturelle et la sociologue Anne Atlante, tous deux participent activement aux bien nommées rencontres science-friction autour de la question comment repenser les rapports entre l'humain et la nature. Bienvenue. Bonjour Anne Atlante.
Bonjour Caroline.
Bonjour Pierre-Henri Gouillon.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour une heure de science friction. Le nom est bien trouvé pour ces rencontres à l'abbaye de Beauport en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, qui vont réunir du 28 au 30 septembre prochain une communauté plurielle de chercheurs en sciences de la nature et en sciences humaines et sociales qui ont fait le pari de confronter leur trajectoire et leurs convictions sur ce thème du rapport de l'humain et de la nature. Il y aura aussi des artistes et des décideurs, car l'enjeu est de taille. Pierre-Henri Gouillon, vous êtes biologiste, agronome, spécialiste des sciences de l'évolution, docteur en génétique, en écologie et en philosophie, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Ça fait de nombreuses années que vous faites entendre votre voix de scientifique, que vous nous alertez sur les enjeux environnementaux, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, pour reprendre le titre de la tribune que vous avez signée avec 200 autres personnalités dans le journal Le Monde. Il y a urgence à agir, enfin à passer aux actes.
Oui, il y a urgence et c'est difficile à faire comprendre parce que ça ne se voit pas. La meilleure image que j'ai pu trouver, c'est celle d'un satellite. Je vais vous expliquer ça en une minute. Tous les phénomènes, que ce soit d'ailleurs les phénomènes climatiques ou les phénomènes liés à la biodiversité, sont des phénomènes dynamiques. C'est-à-dire qu'il y a des forces contraires qui ne vont pas s'équilibrer pour fabriquer un équilibre statique, un truc qui ne bouge pas, mais qui vont donner des mouvements, et c'est ce mouvement qui va permettre au système de se perpétuer. Un satellite, par exemple, c'est pas ce qui bouge qui reste en place. Et si jamais il ralentit, on sait ce qui va se passer. Progressivement, il va rentrer dans une dynamique d'effondrement et un jour ou l'autre, il tombera. Entre le moment où il ralentit et le moment où il est tombé, il y a du temps. Et au début, on pourrait dire, oh, bah, c'est pas grave, il ralentit un peu. Bon. Mais au fur et à mesure qu'il ralentit de plus en plus, eh ben, ça va devenir de plus en plus difficile de le remettre sur une orbite qui lui permette de se maintenir. Eh ben, le climat, la biodiversité, c'est la même chose. On a amorcé un effondrement. Plus on attendra, plus ça sera difficile de relever la barre. Et il y a un moment d'ailleurs où il sera carrément trop tard et où même si on enlève toutes les causes qui ont au départ causé le problème, eh bien, ça continuera tout seul. Donc on est dans l'urgence et on a tous les indicateurs nous le disent. Hein, la biodiversité, c'est quand même extraordinaire de voir à quel point toutes les effectifs de toutes les formes vivantes baissent. Alors il y a quelques extinctions, c'est pas encore ultra massif, mais au rythme où on va maintenant, on va rentrer dans le.
Et tous les chercheurs, tous les scientifiques sont d'accord sur ces signaux alarmants. Il y a une mobilisation tout de même de la société civile, mais ça suffit pas.
Il y a une mobilisation. Et malheureusement, d'ailleurs, la société civile sait pas du tout quoi faire. Elle demande aux décideurs de faire des choses. Et là, on a un vrai problème. D'abord parce que il y a une stratégie qui me semble assez perverse d'aller culpabiliser les gens sur ce qu'ils font. Alors qu'en réalité, si on veut traiter les problèmes, eh ben, il faut des phénomènes généraux. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes écolo, bah, c'est pas tout à fait normal d'aller passer vos vacances à Bali, hein, faut pas exagérer. Mais n'empêche que tant qu'on taxera pas le kérosène, tant qu'on taxera pas les transports maritimes, etc., etc., faire culpabiliser les gens parce qu'ils savent pas faire autrement que d'aller prendre leur voiture pour aller faire leurs courses parce que c'est un peu trop loin, eh ben, ça me semble pas très sain.
Alors comment sortir justement de cette culpabilisation, hein, c'est ce que vous ce sur quoi vous travaillez. Anne Atlan, vous êtes sociologue de l'environnement, biologiste de formation, aujourd'hui directrice de recherche au CNRS. Vous travaillez à l'interface entre écologie et sociologie, c'est-à-dire en gros que vous cherchez à documenter, à comprendre ce qui se passe et ce qui se joue dans nos têtes d'humains face aux enjeux environnementaux.
Oui, ce qui se joue dans notre tête d'humains sociaux, dans nos têtes plutôt de groupes humains. Et effectivement, bon, il y a une urgence, il y a une prise de conscience qui commence à venir. Et il y a, je pense, sauf exception assez rare, une volonté globale de vouloir protéger et conserver la nature. Donc qu'est-ce qui fait que malgré ça, il n'y a pas de passage à l'acte? Il y a une part de la réponse qui est certainement politique, mais il y a aussi une part de la réponse qui est que lorsqu'on veut agir, par exemple dans la gestion des espaces naturels protégés, on va avoir des choix qui vont être faits au nom de l'écologie scientifique, qui a quand même quelques certitudes, même si elle n'a pas que ça. Et puis on va essayer de dire aux gens quoi faire, notamment dans ces espaces, en pensant qu'ils seront d'accord avec nous au fur et à mesure qu'on donnera des explications. Or, les différentes valeurs qu'on peut accorder à la nature, les raisons pour lesquelles on veut la protéger, même si on veut tous la protéger, ne sont pas les mêmes. Et il me semble que la prise en compte de la pluralité de ces valeurs est nécessaire pour que les actions de gestion soient partagées, mise en œuvre par la population et donc plus efficace.
Pour qu'on puisse passer aux actes, il faut au fond vraiment faire passer à la fois vos recherches en tant que scientifique, mais aussi le fait que c'est une question de valeur, c'est ce que vous dites ?
Tout à fait, et puis le fait que pour qu'on puisse passer aux actes, il faut que ces actes aient du sens pour les gens auxquels on demande de le faire. Et ce sens, c'est pas forcément celui qui vient d'une argumentation purement scientifique. Il y a des argumentations de type sensible, de type affectif, de type patrimonial, sachant que le patrimoine naturel, c'est pas la même chose pour tout le monde et que tel qu'il est vu sous l'angle de l'écologie scientifique ou du gestionnaire, c'est pas la même chose que la manière dont il est vu sous l'angle, on va dire, de l'agriculteur, de l'usager, du pique-niqueur. Et je pense que tout ça n'a pas à s'opposer, mais qu'au contraire, une prise en compte globale peut permettre des actions qui soient plus efficaces.
Science Friction, donc, au programme aujourd'hui, autour de la question comment repenser les rapports entre l'humain et la nature, question brûlante d'actualité. En ce premier jour de sommet mondial du climat à San Francisco, c'était le focus de la matinale sur RFI. Retour sur Info avec le mix d'Hugo Viola.
Dans leur coiffe à plumes ancestrales, ils sont au premier rang de la marche pour le climat de San Francisco. Particulièrement mobilisés, les Indiens Native Americans se disent directement frappés par le changement climatique. Depuis sa réserve du nord de la Californie, Phil est venu manifester avec son fils pour interpeller les autorités américaines à l'occasion du sommet mondial pour le climat.
Nous, les indigènes, nous sommes les plus durement frappés par le réchauffement climatique. Ces impacts nous frappent déjà, à commencer par les rivières. Ma tribu vit du saumon et des coquillages. Tout cela est dévastateur.
Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là.
Pour relever le dérèglement climatique, il va falloir y avoir un sursaut politique, mais c'est aussi une question de société dans son ensemble. Et il faut se poser la question de comment est-ce que la société va réussir à relever ce défi, parce que ça suppose des changements énormes, des changements de production et de consommation vraiment énormes. Et donc c'est un défi collectif et ce n'est que par l'action collective qu'on va le réussir.
Nous voulons un monde dans lequel il y aura des coquelicots, où il y aura des abeilles, où il y aura des oiseaux et des humains qui seront moins malades. Voilà ce qu'on veut, ce qu'on souhaite à notre pays.
Ça paraît simple comme ça de vouloir des coquelicots et des humains moins malades, Anne Atlan, mais ça n'est pas si simple que ça. Et on veut tous la même chose, bah, par les mêmes moyens, et on ne part pas du même endroit par rapport à la nature, par rapport aux questions environnementales.
Alors on veut tous, ou presque tous, la même chose. Il y a quand même des individus ou des entités pour lesquelles le profit économique est prioritaire. Je dis des entités parce que quelquefois, c'est quelque chose qui s'est emballé. C'est pas une volonté consciente derrière. Bon, il y a aussi, je pense, des individus pour qui ce qui compte, c'est eux tout de suite. Mais oui, on veut tous, mais à quel prix ? Quels actes on est prêt à faire ou ne pas faire. Donc déjà, il y a une histoire de coût avec ce que disait tout à l'heure Pierre-Henri Gouillon sur la culpabilité, mais il y a aussi une histoire d'accord. Par exemple, est-ce qu'on va trouver que c'est bien ou mal d'aller pêcher à tel endroit? Est-ce que ça fait vraiment du mal à la nature ou non? Bon, tous les débats sur les quotas de pêche. Moi, je travaille sur les espèces invasives, donc qui vient d'ailleurs et qui occupent, on va dire, l'espace géographique. Est-ce que oui ou non, ça va améliorer la biodiversité de les contrôler ou de les détruire? Et puis j'irai même au-delà, ce mot de biodiversité, c'est pas le mot majoritaire pour la plupart de nos concitoyens et encore moins ailleurs. La perception qu'on a, c'est une perception de nature qui va mêler espèces animales, végétales, ambiances, lieux, rochers, mers, etc. Et peut-être que là, il y a une communication qui pourrait être faite différemment et surtout dans les deux sens. Comprendre, on a tous envie de protéger la nature. Qu'est-ce que représente la nature pour les différents individus et groupes sociaux? Et elle ne représente pas la même chose pour tout le monde.
C'est peut-être pour cela, autour de ce terme biodiversité, hein, Pierre-Henri Gouillon, que parfois les chercheurs comme vous ont du mal à faire passer dans la société finalement ce qu'ils découvrent. Vous avez dit vous-même que ça s'emballe, vous nous l'avez dit au début de cette émission. Mais comment est-ce qu'on fait passer justement une écologie globale, une écologie scientifique, véritablement dans la société, pour que véritablement tout le monde puisse s'en emparer, alors les citoyens, mais aussi nos politiques.
Écoutez, moi je trouve que c'est pas si difficile que ça à faire passer auprès des citoyens. C'est vrai que le mot biodiversité, comme Anatlan le faisait remarquer, a remplacé un peu le mot nature, tout compte fait, on n'y a peut-être pas gagné grand-chose, et peut-être qu'il faudrait être plus englobant et reparler de nature, c'est pas très important. Quand on explique aux gens et ce qu'on sait sur la biodiversité et qu'on engage un débat avec eux, on constate que tout compte fait, à travers un certain nombre de différences quand même de valeurs, il y a une volonté globale. Je pense qu'actuellement, la difficulté, c'est qu'on est dans un système politico-économique qui ne permet pas de prendre les décisions qu'il faudrait prendre.
Parce qu'il faudrait un changement radical. Les décisions à prendre sont radicales et changent tout.
Il y a même un ministre qui vient de démissionner, qui l'a dit, malgré son affection pour les dirigeants du pays, il n'a pas pu s'empêcher de dire que ce système-là ne pourrait pas gérer ces questions. Il faut quand même être très clair, à partir du moment où vous avez dans une société, comme les sociétés, disons, occidentales, mais c'est mondialisé maintenant, un certain nombre de personnes qui ne sont pas des personnes physiques, mais des personnes dites morales. Ce mot est déjà scandaleux. Dans les personnes morales, je vous fais remarquer d'ailleurs que les humains sont des ressources, les ressources humaines. On est donc rentré dans une logique où les personnes, les entreprises sont des personnes et les humains sont des ressources pour les personnes en question. Ces personnes, il y a eu des tas de gens qui ont étudié ça, il y a eu un très, très joli livre, un très joli film qui s'appelait The Corporation, qui a montré que ces personnes avaient toutes les caractéristiques d'un psychopathe selon la loi américaine, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de morale, elles cherchent uniquement leur intérêt à elles, elles ne comprennent pas la souffrance d'autrui, etc. Toutes les caractéristiques. Donc nous avons les personnes les plus riches du monde qui sont des psychopathes. Tant qu'on laissera...
Ceux qui nous dirigent, qui sont peut-être aussi des psychopathes.
Alors, ceux qui nous dirigent sont presque par nécessité au service des psychopathes en question, et on s'étonne que les décisions qu'il faut prendre ne soient pas prises. Mais il faudrait peut-être quand même se rendre compte que le système dans lequel on est ne peut pas prendre des décisions intéressantes sur le plan de la collectivité. Alors, ce système a donné des résultats intéressants en termes de vitesse de progrès technique, etc., parce que cette course au profit a amené à ce qu'on fasse de plus en plus vite des téléphones portables de plus en plus extraordinaires, etc., etc. Mais quand il s'agit d'un travail de fond comme celui de prendre en question en main les questions de nature, ce système est incapable de le gérer. Il faut quand même le dire clairement et voir qu'est-ce que nos dirigeants et les gens qui pensent à l'avenir de nos pays propose comme alternative à cette manière de faire.
Voilà, c'est dit, d'autant que l'urgence de réagir ne date pas d'aujourd'hui. La preuve avec cette petite perle que vous nous avez proposée, Pierre-Henri Gouillon, Johnny, notre Johnny national, s'en souciait déjà, absolument. Il s'en souciait en 1970 déjà dans son poème sur la 7e. Il faut l'écouter pour le croire.
Qui a couru sur cette plage ? Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne? Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Allons, ne vous moquez pas de moi.
La sixième extinction, selon Johnny Hallyday en 1970. Oui. Merci Pierre-Henri Gouillon pour cette perle sur la LFI. Autour de la question, comment repenser les rapports entre l'humain et la nature et comment justement faire passer les évolutions nécessaires auprès des décideurs et des aménageurs du territoire. Je propose tout de suite un nouvel éclairage, et celui d'un autre chercheur engagé dans ces rencontres science-friction, Thierry Tatoni, écologue et professeur à l'université d'Aix-Marseille, interrogé par Raphaël Constant.
La première piste qu'il faut explorer, c'est que les uns et les autres prennent conscience, que les scientifiques prennent conscience de ce qu'ils peuvent attendre et de ce qu'ils peuvent exiger, même si c'est au nom de la biodiversité. Et l'aménageur, il faut qu'il prenne conscience dès l'instant qu'on fait un aménagement, qu'on fait une mode d'artificialisation, eh bien, on altère un processus. Comment on peut faire pour, en compensation, essayer de faire des aménagements qui permettent de rétablir ou de pérenniser un fonctionnement écologique qui est déjà en place.
Concrètement, comment vous créez un dialogue entre les scientifiques et les aménageurs du territoire ?
On les rassemble, on les met autour d'une table, on les fait travailler ensemble. Les aménageurs, bien souvent, ils aménagent pourquoi ? Ils aménagent pour répondre à des besoins des populations humaines. On sait très bien que derrière les aménagements qui sont faits, il y a aussi toute une volonté de rentabilité économique. Ça peut aller jusqu'à l'aspect de spéculation, de capitalisation, qui font qu'un aménagement va alimenter l'économie de grands groupes, voire même de grands lobbies. Ceci dit, lorsqu'on construit une autoroute, lorsqu'on met en place des systèmes pour fournir de l'énergie, c'est pour répondre à une demande. Cette demande, elle émane des populations locales qui ont besoin de ces aménagements-là. Donc l'idée qu'on essaye de développer actuellement, c'est faire se rencontrer les aménageurs avec des scientifiques qui gravitent autour des préoccupations de la biodiversité pour donner du sens aux uns et aux autres. C'est-à-dire, le spécialiste en biodiversité, ça ne sert à rien qu'il s'oppose de manière par principe à des aménagements, alors qu'il s'inscrit dans une dynamique sociétale qui impose la création de ces aménagements. Et d'un autre côté, c'est pas pour autant que l'aménageur doit se croire tout permis, parce qu'il arrive en répondant à un besoin. Par exemple, on s'est penché sur un contournement autoroutier. Ça peut être sur l'installation de champs de panneaux photovoltaïques.
Sur le fil, comment faire, comment trouver l'équilibre finalement socio-écologique ? Anne Atlan, vous voulez réagir à cet éclairage de Thierry Tatoni ?
Oui, ce qui m'intéresse et qui m'interpelle dans ce qu'il dit, c'est que de toute manière, l'aménagement, il va être fait, donc on peut l'accompagner, que c'est par exemple produire de l'énergie pour répondre aux besoins d'une population locale. Alors effectivement, l'énergie qui est quand même un peu l'autre nerf de la guerre, on va dire, c'est un vrai problème parce que tout le monde est d'accord qu'il faut en utiliser moins et presque tout le monde en utilise de plus en plus.
Donc il y a vraiment... On est dans des paradoxes, on a une double injonction tout le temps.
On a une double injonction tout le temps. Il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect de la marchandisation du monde que j'avais illustré avec... ils ont partagé le monde de
Tikkun Jaffa Coli qu'il a bien chanté. Vous l'aviez illustré dans le premier MOOC des rencontres science-friction.
Donc à partir de là, effectivement... Tout est possible, c'est pour ça qu'il chante « Plus rien ne m'étonne », mais en même temps, tout est possible plutôt sur un mode dégradé. Donc ça, c'est un vrai problème. Comment changer notre paradigme économique ? C'est nécessaire, sans ça, on va être bloqué. Mais il y a un autre niveau qui est celui vraiment de l'action individuelle. Et les deux doivent évoluer en même temps. Il faut être capable... non seulement d'avoir conscience qu'il faut faire quelque chose, mais de le faire. Et de le faire comment, à quel prix ? C'est aussi les choses dont on doit discuter collectivement, parce que je pense que là, il n'y a quand même pas de solution simple. Pour passer de la prise de conscience à la mise en acte, il faut appuyer sur plusieurs leviers. qui sont des leviers affectifs, économiques, de valorisation, et prendre en compte non seulement, je disais, la diversité des gens, mais aussi les différences nord-sud, la biodiversité dans le sud.
Les différences nord-sud, je suis d'accord, parce que souvent au sud, c'est quand même, j'ai envie de dire, une double peine, hein, même voire une triple peine. C'est-à-dire que c'est souvent là où les questions environnementales sont les plus prégnantes, et c'est souvent là où les injustices économiques sont aussi, les inégalités sont les plus prégnantes également. Comment faire pour que, justement, en changeant nos rapports par rapport à la nature, en prenant en compte toutes ces questions et ces crises environnementales, comment faire aussi, Pierre-Henri Gouillon, pour qu'on ne pénalise pas le Sud ?
Je pense qu'on pénalise le Sud depuis tellement longtemps qu'il va,
c'est pas faux.
Ça va prendre du temps avant d'arriver à arrêter. Moi, je voudrais dire que sur ce qui concerne la nature, il y a au moins un aspect dont je souhaite parler, peut-être à cause de ma formation initiale, mais c'est l'agriculture. Mmh. Il faut quand même bien voir que les surfaces agricoles sont très importantes au niveau mondial, et que prétendre qu'on va gérer la nature d'un côté et puis l'agriculture de l'autre, indépendamment l'une de l'autre, c'est totalement stupide. Le fait que la démission de notre dernier ministre de l'Environnement est instantanément... Et aboutit instantanément au fait que la PAC ne soit plus gérée du tout par ce ministère-là et qu'il revienne entièrement...
La politique agricole commune.
Oui, la politique agricole commune de l'Europe. Hein, donc, soit gérée entièrement par le ministère de l'Agriculture et par un ministre dont on sait très bien que l'environnement, ça n'intéresse pas du tout, eh ben, ce n'est pas un bon signal au niveau français. Au niveau international, et particulièrement pour les pays du Sud, je pense que la révolution verte, qui a eu un certain nombre d'avantages, a aussi eu d'énormes inconvénients. Elle a en particulier amené à une augmentation des inégalités, parce que les cultures d'exportation, eh ben, c'est des cultures qui peut-être sont rentables, mais sont rentables pour quelques-uns, et que les cultures vivrières disparaissant, il y a un grand nombre de gens qui se sont retrouvés sans être capables de survivre et sans être capables de trouver à manger. Donc nous avons mis en place un système écologique et économique dans l'agriculture du monde entier et des pays du Sud en particulier, qu'il faut revoir, il n'y a aucun doute.
Mais il faut revoir de fond en comble. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a tant de résistance. C'est parce que c'est un petit ripollinage.
Le problème, c'est que toujours dans ces cas-là, ceux qui ont intérêt à ce que ça ne change pas, c'est les plus puissants et les plus riches. Et évidemment, d'ailleurs, par construction, si vous voulez, hein, quand vous avez des riches et des pauvres, ceux qui n'ont pas intérêt à ce que ça change, c'est les riches. Et donc, les riches, c'est ceux qui ont le pouvoir. Donc on est dans une logique folle dans laquelle on a mis en place un système dans lequel c'est les gens qui n'ont pas intérêt à ce que l'intérêt du plus grand nombre soit respecté, qui justement ont les manettes, et ça, aussi bien dans les pays du Sud que dans les nôtres, et puis dans les accords qu'il y a entre nous et les pays du Sud, on voit ça fonctionner tout le temps. Heureusement, il y a quelques cas où même avec tout cet effort des puissants, ça marche pas. Je pense que, par exemple, le fait que le Burkina abandonne progressivement le coton transgénique parce que il marche pas, on a de la chance au fond qu'il marche pas. Hein. Mais du coup, peut-être qu'il va
y
avoir...
C'est peut-être un peu encourageant. Il y a quelques pistes encourageantes.
Il y a quelques trucs qui s'arrangent
autour de toutes ces
actuellement,
questions.
Mais ça va pas vite. Et puis on n'a pas une dynamique qui aille dans le bon sens, quoi.
Autour de toutes ces questions parfois folles et complexes d'équilibre, vous avez choisi un atlan d'écouter un très beau titre d'un chanteur réunionnais engagé qu'on aime beaucoup sur RFI, Daniel Waro. Le morceau s'appelle Adécalum, vous nous expliquerez pourquoi ensuite.
Ici la Réunion, quand tu t'en salais, troisième réunionnais, la partie marron. Ici la Réunion. Colombe.
Voici la réunion avec Daniel Warreau sur RFI et les frères Adécalome. Expliquez-nous ce choix musical, Anatlan, parce qu'il dit quelque chose autour de la question du rapport des humains et de la nature.
Il dit quelque chose de la complexité de ces rapports. C'est une histoire, Adécalome, qui se passe en 79. C'était trois frères éleveurs qui laissaient leurs troupeaux de bovins pâturer assez librement dans la nature. Et l'Office national des forêts qui avait décidé qu'il fallait... Alors à l'époque, c'était pas tant dans la protection de la nature, mais c'est en train de venir, en tout cas, gérer cette nature de manière à favoriser ce qui était déjà la biodiversité, a décidé d'interdire à ses frères de laisser pâturer leurs bêtes. Or, c'était ce qu'ils faisaient depuis toujours. Ils ont vécu ça comme une expropriation, comme quelque chose qui venait de Paris, du Nord, qui s'imposait à eux, à leur tradition du Sud. Ça s'est politisé avec le Parti communiste. Il y a eu des mouvements autour de cette chanson de Daniel Warreau. Au même moment, se revendiquer leur patrimoine, parce que derrière, il y a le patrimoine culturel créole. Et en fait, ils ont eu une amende, et puis ils ont été emprisonnés, puis ils ont été libérés. Et... ça a vraiment pris du sens. C'est une chanson qui est encore beaucoup chantée et qui a été réactualisée il y a peu, parce que sur ce même terrain où ils pouvaient faire leur mettre leurs bêtes dans certaines conditions, il y a eu un projet de golf qui finalement a été abandonné. Donc cette fois, c'était pour des raisons économiques. Et ailleurs, sur d'autres terrains, dans ce qui est aujourd'hui parc national classé au patrimoine de l'UNESCO, vous avez toujours ce qu'on appelle des bovins divagants, c'est-à-dire qu'ils paissent en liberté. Les éleveurs pensent que c'est leur terre et leur droit. Et les écologues, ainsi que les gestionnaires, disent que ça fait une pression sur la repousse des petits arbres qui va empêcher de préserver cette nature.
Donc, sans juger, complexe, voilà. C'est ça. Et tous les niveaux, et chacun a raison. Oui, à la limite, chacun a raison.
Chacun a une raison de faire ce qu'il fait. Ouais. Et je dirais que dans ce cas particulier-là, et avant l'arrivée du golf qui est à part, vous aviez que des gens qui pensaient faire quelque chose qui était bon pour la terre. Alors, avec des moyens, ou peut-être des écoutes, il y avait toute une politique derrière. Mais on voit que ce qui fait patrimoine pour un et pour l'autre, c'est pas pareil. Les éleveurs, eux, pensent que la nature, c'est celle-là qu'ils connaissent, c'est peut-être même eux qui vont la protéger. Et 79, aujourd'hui, ces questions se posent avec beaucoup d'acuité.
Et on se rend compte aussi, Pierre-Henri Guillon, qu'il n'y a pas des bons et des méchants. Bon, bien sûr, il y a des grands puissants.
Bah, sur du golf, c'est des méchants quand même, hein,
voilà,
faut être clair.
D'accord. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment méchants, mais il y en a d'autres. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et comment est-ce qu'on fait pour vivre tous en bonne entente sur cette terre? On est de plus en plus nombreux. Notre action est de plus en plus lourde, pesante. Sur la Terre, comment est-ce qu'on fait? Mais on est tous des êtres humains avec des envies, des idées et des droits.
Oui, non, je pense que ces histoires sont très intéressantes et qu'elles nous montrent la difficulté de gérer ces questions. En revanche, comme le disait Anatlan tout à l'heure, et je pense qu'il faut peut-être insister là-dessus, si jamais, vous, dans des situations comme celle-là, vous mettez les gens ensemble et que vous discutez, et que vous arrêtez de croire que parce que vous êtes un scientifique, c'est à vous d'expliquer aux autres la vie, mais que, même en tant que scientifique, vous écoutez ce que les gens vous disent et que vous essayez de comprendre pourquoi ils peuvent avoir raison contre vous, eh bien je pense que les choses peuvent s'arranger.
Il faut entendre les points de vue de chacun.
Voilà, il faut entendre les points de vue de chacun, sauf que, comme vous le disiez, notre poids sur la nature est de plus en plus lourd. Mais il est de plus en plus lourd, pas à cause des éleveurs qui vont mettre leurs trois vaches dans des communs. Hein. Il faut être sérieux. Il est de plus en plus lourd parce qu'on a des bateaux de plus en plus énormes qui déjà sillonnent les mers et envoient du CO2 plein l'atmosphère. Des bateaux de pêche qui raclent de plus en plus follement le fond des océans. Des bateaux qui tuent les baleines avec une efficacité qui n'a rien à voir avec celle des baleiniers d'avant, etc.
Oui, il faut écouter tous les points de vue, mais il y a des différentes échelles.
Et puis il y a des moments où, effectivement, les gens savent très bien qu'ils sont en train de détruire la ressource qu'ils exploitent et s'en moquent parce qu'ils disent que quand ils auront mis suffisamment d'argent de côté, ben, ça sera tant pis et qu'ils iront s'occuper d'autres choses. Ceux-là, si vous voulez, on ne peut pas se contenter de les écouter, on est obligé de leur dire que non. Et c'est là qu'il y a un vrai problème, hein, c'est que vous avez des tas de cas dans lesquels il y a vraiment un dialogue à établir et puis il y a des cas dans lesquels il faudrait dire non, ça, niette. Seulement, le problème, c'est que justement, c'est ceux-là les plus difficiles. Parce que c'est là qu'on est en face du
vrai pouvoir économique et des lobbies, hein, un pot de fer contre pot de terre. Autour de la question des rapports entre l'humain et la nature, comment faire pour transmettre peut-être d'autres modes d'habiter la terre et de fonctionner pour nos enfants? Je propose d'écouter un autre éclairage, c'est celui d'un chercheur herpétologue, Xavier Bonnet, spécialiste des serpents, qui était récemment notre invité.
Bon, ça fait quand même maintenant assez longtemps que je travaille sur les serpents. Et au début, j'ai eu la mauvaise idée de m'approcher des vieillards vénérables qui connaissaient la nature. Et j'ai abandonné cette piste. On n'arrive à rien. Et naturellement, je me suis orienté vers les enfants. Et là, c'est très facile. Donc les enfants ont l'esprit plus ouvert, globalement. Et quand on les amène dans la nature, en faisant bien attention de ne pas les gonfler avec des principes d'écologie, en fait, tous ces trucs de culpabilisation, en leur montrant la beauté de la nature, ils se mettent à aimer les serpents instantanément. D'une part, d'où les difficultés que nous pouvons avoir, parce qu'on a eu des gamines qui voulaient faire des bisous aux vipères, ça n'est pas question, hein. Et deuxièmement, alors qu'on avait fait très attention à ne pas leur en parler, ils ont compris qu'il fallait protéger les habitats. Donc pour moi, la seule façon efficace de faire évoluer les choses, c'est d'emmener les enfants voir les beautés de la nature.
Vous partagez l'avis de Xavier Bonnet, Pierre-Henri Gouillon, donc pas culpabiliser les enfants, pas les laisser faire n'importe quoi, mais leur montrer, leur faire toucher les beautés de la nature sans les culpabiliser.
Bien sûr, mais c'est très difficile. Mm-hmm. C'est très difficile, alors, je ne vais pas vous faire le couplet habituel sur les écrans, etc. Mais à l'heure actuelle, effectivement, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Il y a de plus en plus d'enfants qui n'ont plus aucun contact avec la nature, mm-hmm. même à la campagne. C'est ça le truc extraordinaire, hein, c'est que dans le temps, quand même, au moins, les fils de paysans, ils connaissaient la nature, maintenant c'est terminé. Et moi, souvent d'ailleurs, les gens me disent, mais enfin, quelle terre allons-nous laisser à nos enfants? Je leur dis, mais posez-vous déjà la question de quels enfants vous allez laisser à notre terre.
Voilà. Jolie pirouette, Pierre-Henri Gouillon. Anne Atlan, vous voulez réagir à cet éclairage? Moi, je pense qu'il est important aussi de ne pas culpabiliser, on l'a déjà dit, de ne pas être catastrophiste non plus. C'est-à-dire que c'est compliqué aussi de faire passer aux adultes comme aux enfants le fait simplement qu'il va falloir peut-être changer.
Le fait qu'il va falloir changer, je pense que tout le monde est d'accord, surtout si c'est les autres qui changent et que c'est moi, ça ne me coûte pas trop cher.
Voilà.
Donc, pour que j'accepte de changer, ouais. Il faut que la valeur de ce quelque chose, qui est la nature, la biodiversité, soit plus importante que mon propre confort. Et pour accorder de la valeur aux choses, effectivement, l'expérience, la pratique, c'est extrêmement important. C'est pas le discours, c'est pas dire, moi, voilà, je vais te prouver qu'il y a besoin de ça pour survivre et tout ça, c'est lointain, c'est abstrait. Et donc, la pratique de nature, de manière générale, hein, c'est par l'expérience qu'on va faire évoluer nos valeurs, et la pratique de nature, elle est extrêmement importante pour non seulement la prise de conscience, mais pour le passage en acte qui va résulter de la valeur qu'on accorde, la valeur relative entre ce que ça va me coûter en termes de confort, du moins au début, parce qu'après je pense que ça peut être une vie aussi très confortable, et ce que ça peut apporter à la nature. Et je voudrais aussi nuancer ce point, je ne sais pas ce qu'il en est, mais on est quand même écouté par des gens qui ne sont pas tous en Occident, mm-hmm. et où la pratique de la nature est encore très importante, et où peut-être là, il y a d'autres freins qui vont être des freins plus directement économique.
Absolument. Et il ne faut pas l'oublier, ça, qu'est-ce qu'on peut justement, quelle bonne pratique de ce côté-là de la planète, au sud, où on est encore en lien avec la nature, mais quelle bonne pratique on pourrait encourager, vu justement les freins, les questions, les enjeux économiques. Est-ce que vous avez des pistes? Ou est-ce qu'il faut demander à nos auditeurs des pistes, justement, et d'y réfléchir?
On peut demander des pistes, mais je pense qu'elles ne sont pas fondamentalement différentes. Hein. Une agriculture qui soit vivrière, ne pas mettre de la clim tout le temps, parce que dans tous les pays du monde, y compris au sud, on dépense de plus en plus d'énergie. Donc une certaine sobriété, je ne sais pas Pierre-Henri, mais en fait les remèdes sont un peu les mêmes partout, avec quand même ce côté agriculture vivrière.
Oui, je pense que concernant l'agriculture, on a mis en place un modèle dans lequel l'agriculture était l'ennemi de la nature. C'est-à-dire qu'on allait totalement détruire tout ce qui était naturel et on a quasiment essayé de détruire les sols de manière à ne plus avoir d'ennuis avec ce qu'il y avait dedans, de contrôler tout ce qu'il y avait dans les 5 cm du haut en mettant les pesticides, les engrais et les graines qu'on voulait et puis d'éliminer tout le reste. On se rend compte de tous les défauts que ça a. Je pense qu'aujourd'hui, pour reprendre les mots d'un agronome que j'aime beaucoup et qui a beaucoup travaillé dans les pays du Sud, qui s'appelle Marc Dufumier, il faut absolument arriver à une agriculture savante, non pas savante parce qu'on sait bidouiller des gènes, ça c'est pas très savant, hein, mais savante parce qu'on va comprendre la complexité des interactions écologiques et qu'on va faire une agroécologie. Et ça, c'est vrai pour le Sud comme pour le Nord. Le Sud, il y a des endroits où ça se pratique spontanément.
Mmh, l'agroécologie,
absolument. Et donc, on sait le faire. Simplement, c'est ça qu'il faut favoriser. Il faut arrêter de favoriser l'agriculture destructrice. Et ça, c'est compliqué. Je Je voudrais aussi citer les travaux de Philippe Descola, au Collège de France, qui travaille sur ces questions de savoir
et des rapports nature-culture,
et qui a montré à quel point, par exemple, certains peuples autochtones d'Amazonie jardinaient la forêt amazonienne, alors qu'on avait longtemps pensé que c'était des sauvages et que la forêt, on l'appelait forêt vierge parce qu'il n'y avait pas d'hommes dedans, alors qu'évidemment qu'il y en avait. Hein. Et la chose surréaliste de voir des gens d'associations de défense de la nature qui viennent expliquer à ces Indiens comment il faut gérer la biodiversité. Alors que,
on marche sur la tête.
Exactement. Alors qu'ils devraient venir les écouter pour savoir comment on gère la biodiversité. Et c'est là qu'on est dans une situation qui, effectivement, on marche sur la tête, comme vous le disiez. Il y a vraiment un vrai travail à faire pour qu'on se remette un petit peu en question et qu'on essaye de comprendre comment le fonctionnement naturel des systèmes peut nous amener à faire une agriculture productive et respectueuse de l'environnement et du coup durable.
Il y a du boulot, je propose de nous arrêter quelques instants pour rendre un petit hommage à Rachita qui vient de nous quitter, le trublion Rachita. Ciao l'artiste, on l'écoute sur RFI. Nothing, notre hommage à Rachita sur RFI, dans cette chanson Les Artistes, autour de la question comment repenser les rapports entre l'humain et la nature, comment penser une nouvelle écologie au sens originel du terme, comment éviter aussi le catastrophisme ou les pensées apocalyptiques. Je vous propose un dernier éclairage inspirant, c'est celui de la philosophe Corinne Peluchon, auteure entre autres des Nourritures et d'éléments pour une éthique de la vulnérabilité.
Je crois que la crise environnementale ne doit pas inciter au catastrophisme qui conduit à des réactions contre-productives. Et plus précisément, il me semble que la crise écologique est plus qu'une crise des ressources et qu'elle fait signe vers une manière d'habiter la nature, d'habiter la terre. Et le mot habiter est, je crois, tout à fait intéressant parce que c'est l'idée que c'est une réflexion sur ce dont nous vivons, qui est à la fois naturel et culturel. Nous vivons de bonnes soupes, mais aussi de villes, de cinéma, d'aliments. De penser, si vous voulez, l'écologie au sein d'une philosophie de l'existence et de penser ce que cela veut dire pour l'homme, pas seulement d'être au monde, mais d'être aussi à la nature, d'user des vivants et des ressources et de penser la justice comme partage des ressources avec évidemment les autres hommes présents et à venir et les autres cultures. Et je crois que pour arriver à élargir l'éthique ou plutôt à décentrer un petit peu l'éthique afin de prendre en considération le sort des hommes présents et à venir et aussi le sort des autres espèces, eh bien il ne faut pas penser à la crainte seulement finalement, parce que le catastrophisme, ça pousse chacun à finalement à prendre son plaisir immédiat, parce que, bah, évidemment, on se dit alors à quoi bon ? Alors que justement, l'idée, c'est plutôt de voir comment on se pense soi-même et intégrer au cœur de son vouloir vivre le souci pour les générations futures et le souci pour les autres espèces. Donc ça veut dire que c'est une modification profonde du rapport à soi-même par le rapport aux nourritures, aux ressources, par le rapport aussi aux nourritures qui sont également un rapport aux autres espèces.
Qui veut réagir à cet éclairage inspirant de Corinne Pelluchon, Pierre-Olivier Pierre-Henri Houillon, excusez-moi.
Je pense que c'est effectivement très inspirant et je suis entièrement d'accord avec Corinne Pelluchon. Il faut absolument revoir notre rapport à la nature, comme notre rapport au monde. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment une différence, hein, le Dasein des philosophes, est-ce que vraiment le rapport au monde, c'est autre chose qu'un rapport à la nature? J'en suis pas absolument certain.
Et sur cette éthique de la vulnérabilité, moi je trouve que c'est une piste aussi intéressante de pour penser nous-mêmes, hein, de penser d'abord aux plus vulnérables et de penser effectivement à la vulnérabilité et du coup à notre action sur ce qui est plus vulnérable.
C'était un des thèmes de Darwin, hein, qui a dit que c'était ça la grandeur de l'espèce humaine, c'était justement ce souci pour les plus vulnérables. Le malheur, c'est que ce qu'on a retenu de Darwin, c'est le contraire. C'est-à-dire que la lutte pour l'existence, etc. Et effectivement, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui pensent qu'eux, ils sont forts et qu'ils n'ont pas besoin de traîner le boulet de tous ces gens, et des gens déjà vulnérables, et de s'en parler des autres espèces. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette vision de l'éthique. Je ne suis pas sûr qu'elle soit partagée au niveau de nos populations, et particulièrement, encore une fois, par les plus puissants, qui souvent considèrent que c'est quand même bien dommage qu'il y ait des gens qui ne soient pas capables de s'en sortir, mais que ce n'est pas de leur faute, quoi. Et ça, je pense que c'est un problème compliqué.
Un Atlant ?
Oui, je pense que ça montre aussi qu'il y a quand même vraiment deux niveaux. Il y a un niveau politique global, de savoir, effectivement, que ce soit une éthique de la vulnérabilité ou autre chose, mais quand on parle de repenser la relation entre l'humain et la nature, repenser notre rapport à la nature, ça se passe au niveau d'une société et au niveau de chaque individu ou de chaque micro-société. Et les deux doivent être menés de front pour que finalement on arrive à un changement de paradigme qui prenne en compte notre relation à la nature et qui arrive à ce que nos sociétés humaines ne soient pas détrimentielles pour la nature.
Est-ce que vous avez un exemple, un Atlant, dans tous vos travaux où vous enquêtez, où vous recueillez d'autres, non pas d'autres rapports, mais les valeurs de chacun par rapport à la nature? Est-ce que vous avez un exemple de choses qu'on a pu faire bouger un peu, peut-être pas de valeurs, mais qu'en exprimant ces valeurs ou ces positions par rapport justement à la nature, on puisse faire avancer ou faire bouger les choses?
Alors, des exemples vraiment précis où ça s'est fait, peut-être pas, mais je pense que vous parlez sans doute de ces travaux qu'on a faits sur la gestion des chats.
Parce qu'on pense souvent, quand on pense à la nature, on pense aux espèces, aux animaux sauvages, etc. Mais il y a la question des animaux domestiques. Et là aussi, il peut y avoir friction.
Et à la question de l'animal tout court, en tant qu'animal, individu, que je souhaite protéger en tant qu'individu, alors c'est particulièrement vrai pour les animaux domestiques, mais pas seulement, et l'animal sauvage. Dans le cas des chats, dans les îles et dans beaucoup de pays, les chats menacent les petits animaux sauvages qu'ils chassent de manière très efficace. Et donc, les gestionnaires de la nature, pour protéger, c'est souvent des petits oiseaux, ça peut être des lézards, ça peut être des batraciens, qui souvent ont évolué dans des environnements dépourvus de prédateurs, donc vous mettez là-dedans un chat ou un furet, c'est une catastrophe. Donc, veulent éradiquer les chats. Et à ce moment-là, immédiatement, la population n'est pas d'accord. Et puis, les organisations de protection des animaux nationales ou internationales interviennent. Et pour les gestionnaires, souvent, ça pose problème. Chaque fois, d'ailleurs, qu'ils veulent éradiquer d'autres choses, mais c'est particulièrement vrai à ce niveau-là, parce que la protection de l'animal en tant qu'individu, à ce moment-là, se heurte aux idées de protection de la biodiversité en tant que groupe et, je dirais, en tant que concept. Et en écoutant les uns et les autres, on peut arriver à trouver des solutions où on va respecter ce qui, pour l'un, est la valeur la plus fondamentale, c'est ne pas faire souffrir un être vivant. Pour l'autre, la valeur la plus fondamentale qui va être protéger le maximum d'espèces, et on peut y arriver par exemple en trouvant des moyens de laisser aux uns un petit peu de chats domestiques de la manière dont ils l'aimeraient, ou au contraire en trouvant des moyens de ne pas les faire souffrir, mais aussi du coup de rendre la gestion plus efficace. Donc j'ai pas le temps de développer davantage, mais
il y a des pistes finalement entre gens de bonne volonté. Quand on se met autour de la table, il y a des pistes. Vous diriez quoi? Vous êtes plutôt optimiste, pessimiste, vous qui travaillez un instant sur ces questions d'évolution ou de rapport homme-nature, enfin humain et nature?
Et moi, je suis optimiste par nature, si j'ose dire. Ça ne vient pas de mes sujets d'études. Peut-être même que je me suis mis à travailler là-dessus en me disant, bon, je veux essayer de voir comment est-ce que ça peut marcher. Oui, je suis optimiste parce que je pense qu'on va changer effectivement nos relations, qu'on peut en tout cas le faire, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Et par contre, là où je suis peut-être pessimiste, c'est que ça va changer ces choses-là, ça va prendre du temps, ça peut prendre plusieurs générations. Je ne suis pas sûre qu'on les ait, mais je veux croire que c'est possible.
Donc il faut faire vite, Pierre-Henri Gouillon. Il y a urgence, la maison brûle, disait un autre de nos présidents, mais il est encore temps de faire bouger tout ça.
Il est temps de faire bouger tout ça, mais il faut s'y prendre rapidement, et puis il faut prendre des décisions très rapides. Il y a des décisions qui sont en train d'être prises là maintenant. Je pense qu'il faut que nos concitoyens soient conscients de ça. Et parmi les décisions, il y a les traités commerciaux qui sont en train d'être signés, TAFTA, JEFTA, CETA, etc.
Vous insurgez contre ces traités?
Ah oui, absolument, parce que là, s'il y a quelque chose qui ne permet pas de gérer les problèmes environnementaux, c'est bien ces traités. Dans la mesure où les entreprises, dans le cadre de ces traités, vont avoir des droits incroyables de rejeter des réglementations locales qui permettent de protéger localement, mais si jamais ça gêne leur commerce, elles auront le droit d'attaquer devant un tribunal privé. Il est clair que j'espère que nos concitoyens vont tous s'élever contre ces traités. Et là, c'est en cours. Là, il y a une question au gouvernement en ce moment à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que c'est à nous, citoyens, de dire, écoutez, ça fait un moment qu'on vous dit qu'on veut prendre en compte sérieusement les affaires d'environnement. Il y a un exemple très très clair, c'est ces traités-là, il faut arrêter.
Voilà qui est dit. Merci à tous les deux d'être venus partager en direct toutes ces réflexions, ces interrogations et ces passerelles possibles aussi. Alors pour en créer d'autres, des passerelles, rendez-vous aux rencontres sciences friction à l'abbaye de Beauport, c'est dans les Côtes d'Armor en Bretagne.
Paimpol ou qui n'a pas de falaise.
À côté de Paimpol qui n'a pas de falaise. Merci pour ces précisions Pierre-Henri Gouillon. Merci Pierre-Henri Gouillon. Merci Anne Atlan, ça sera du 28 au 30 septembre prochain, près de Paimpol. Il y a aussi une revue Science Friction et plein de pistes intéressantes à creuser collectivement. Le lien est sur notre page.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Merci de votre curiosité, amis auditeurs. N'hésitez pas à nous réécouter à volonté sur le site de RFI. On se retrouve, si vous le voulez bien, lundi avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, autour de nouvelles interrogations à partager ensemble sans modération. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, prochain journal dans moins d'une minute.